150 millions d'enfants naissent chaque année dans le monde. Autant de petits d'hommes inscrits dans une famille, une lignée, une culture, un avenir. Bien au-delà du domaine médical de la procréation, la naissance met en jeu toutes les questions liées à l'humain. L'histoire et l'ethnologie nous disent à quel point les cultures y sont toujours mêlées. Le progrès scientifique a révolutionné la sécurité de la mise au monde, puis l'abord de la procréation. Mais la maîtrise des techniques ne suffit pas. D'ailleurs, à propos de la procréation, le dernier livre de l'association La Cause des Bébés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'association que j'ai fondée avec des collègues de périnatalité, petite enfance. Vous allez sur Internet, on a un site artisanal, et vous pourrez regarder un petit peu ce qu'on fait. Donc, dans le cadre de cette association, nous avons une collection de livres, la collection de la cause des bébés, qui est abritée donc, chez Bayard, comme disait Renaud Jarry. Et le dernier livre est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Il est destiné aux enfants, ce livre. Il s'appelle « La grande aventure de la naissance avec la PMA ». C'est-à-dire que Catherine Dolto et moi-même, qui sommes co-auteurs de ce livre, avons pris l'initiative de faire un livre qui peut être, pour les enfants comme pour leurs parents, un support pour essayer d'y comprendre quelque chose dans toutes ces avancées de la procréation et de ne pas tout mélanger et surtout d'éviter de rentrer dans des non-dits, des tabous, des secrets. Donc c'est un livre qui explique. Qui explique ce qui s'est passé pour ces enfants qui sont nés comme les autres, mais qui ont été conçus d'une manière un peu différente. Donc celui-là, il est sorti chez Gallimard Jeunesse. La psychanalyse nous a appris combien, ce moment étant fondateur, il était important de ne pas considérer le nouveau-né comme un objet de soin, mais comme un sujet. Ces enfants qui naissent chez nous aujourd'hui sont les adultes de demain, et la manière dont nous les accueillons, techniquement, symboliquement, économiquement, aura des effets pour les générations qui viennent. Pour faire face aux problématiques contemporaines qui ont fait surgir les avancées scientifiques, les évolutions de la société et les problèmes démographiques, la réflexion s'impose quant aux effets de nos pratiques occidentales modernes. La famille traditionnelle se transforme. Monoparenté, homoparenté, adoption, médecine de la reproduction, néonatologie, obstétrique moderne contribuent à une évolution vertigineuse. Nous sommes souvent pris de court par la vitesse des transformations qu'elles entraînent. Un peu de recul et un regard critique s'impose. C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui. La médicalisation intensive de la grossesse et l'avènement du diagnostic anténatal ont contribué à l'émergence du mythe du bébé parfait, calibré, garanti, comme les tomates. En dépit des connaissances récentes sur la sensorialité et la sensibilité du fœtus et du nouveau-né, et sur l'importance de la parole, si le bébé est considéré comme une personne, comme un sujet humain, c'est le plus souvent en fonction d'autres impératifs et rarement à plein temps. Dans la logique du ready-made, du monde occidental, entraîné à croire qu'une maîtrise sans faille de ce qui leur arrive selon des normes supposées, les couples sont démunis lorsqu'ils découvrent avec angoisse que ni eux, ni leur bébé ne sont réductibles à des grilles et à des mesures de comportement. Et que s'il est des moments où cette maîtrise nous échappe, c'est bien lors de l'émergence de la vie et de la mort. En périnatalité, les femmes ne sont plus des sujets pensants et parlants, et leurs enfants des êtres de langage, mais elles sont les objets d'enjeux multiples qui les dépassent. Pour maîtriser l'efficacité et parer aux aléas de la médecine périnatale, nous avons fait passer au deuxième plan l'accompagnement humain. Dans une logique économique, nous avons mis la priorité sur l'efficacité technique et dans une logique paranoïaque, sur la diminution du risque. Or, donner la vie, c'est aussi en prendre le risque et d'une certaine façon, donner aussi la mort. Le temps de la grossesse, le temps de la naissance, le temps de l'entrée en maternité ne peuvent se réduire à un calendrier médical. Ces habitudes ont pour résultat une forme de violence institutionnelle qui confine parfois à la maltraitance à l'égard des mères et des enfants, des familles, et dont les conséquences sont difficilement évaluables. Autrefois, les familles se réunissaient autour de leur nouveau venu. À présent, la nucléarisation familiale, l'éloignement géographique et l'organisation des prises en charge obstétricales isolent de plus en plus les femmes tout en leur demandant de faire comme si de rien n'était. J'ai rencontré une mère il n'y a pas longtemps à la maternité, pendant qu'elle était hospitalisée après avoir mis au monde son bébé. Elle réclamait, c'était une étrangère, elle réclamait que le père du bébé soit présent avec elle la nuit, car elle était très anxieuse et n'arrivait pas du tout à trouver le sommeil, ce qui l'épuisait. En fait, ça lui a été refusé, parce qu'elle ne présentait pas une pathologie particulière qui aurait justifié que le père soit là. Ça lui a été refusé, mais à la place, on lui a proposé un somnifère. Elle allaitait. Donc ça veut dire que le bébé aussi, il a le droit à son somnifère. Elle n'arrivait pas, elle allait très mal, elle m'a demandé à me voir, elle n'arrivait pas à comprendre, elle n'a pas pris le somnifère. Elle n'a donc pas dormi. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi, la logique de tout ça. Et je veux dire, moi non plus. Parfois, il y a une efficacité logistique qui prend le pas sur le respect de l'humain, hein, qui était que ça ne coûtait rien à personne que ce monsieur dorme sur un lit de camp ou même sur le fauteuil à côté, mais qu'elle ne soit pas morte d'angoisse, si c'est ça qu'ils voulaient tous les deux. C'est des trucs aussi simples, mais ça, c'est de la maltraitance institutionnelle. D'autant plus que dans le pays d'où elle venait, quand une femme était hospitalisée en maternité, toute la famille était là, la nuit, le jour, ils amenaient à manger, comme ça se passe dans beaucoup de pays. Il n'y a que chez nous qu'on les isole sous cloche, comme ça. En principe, les nouveau-nés, quand ils arrivent, dans la plupart des pays, ils sont accueillis par leur famille quand même. Les femmes réagissent aux propositions de dépistage anténatal de manière variable. Alors, j'appelle dépistage anténatal, ça va du simple test pour la trisomie 21 à toutes les batteries de dépistage qu'on peut avoir quand on a de bonnes raisons de chercher des choses. Pour celles qui savent depuis le début qu'elles vont avoir une amniocentèse, l'hypothèse de l'anomalie est franchement présente. Et elles gardent comme en suspens une incertitude à l'esprit jusqu'au résultat de l'examen. Mais pour les autres, c'est différent. Oui, comme je vous ai préparé. Je ne suis pas venue les mains dans les poches, vous avez vu, j'ai tout écrit. Je vais coller les pages. Si certaines ne semblent pas avoir de doute quant à la normalité de leur enfant, pour les autres, le dosage des marqueurs sériques détermine l'entrée dans une période d'incertitude où plane la difficile notion de probabilité de risque. Alors, à ce moment-là, ça commence avec l'échographie, le test sanguin, le risque évalué avec les différents paramètres. Et on dit à la dame on cherche. Elle est dans une zone à risque, on cherche. Là, le sol s'effondre sous ses pieds. Les femmes, tout s'arrête. Et là, je pose la question de ce qui se passe pour le bébé qu'elle porte. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là ? Où sa mère ne va plus le porter de la même manière. Elle va le porter avec suspicion. Il va être soupçonné. Et on ne sait pas si c'est à juste titre. Mais en tout cas, il est soupçonné. Elles ont peur de ce qui va se passer. Elles disent souvent que, pour l'instant, j'essaye de ne pas m'y attacher. Hein, de peur d'avoir. Parce qu'au bout, qu'est-ce qu'il y a, hein, si le diagnostic tombe et qu'effectivement l'enfant est touché par une pathologie, soit la trisomie 21 ou d'autres pathologies, on va, dans une bonne partie des cas, proposer une interruption de grossesse à ce couple. Donc c'est ça qu'elle ne veut pas penser. Est-ce qu'on va me demander si je suis d'accord pour qu'on tue cet enfant ? Imaginez l'état dans lequel elles sont. C'est tout à fait dévastateur. Et je pense que ça s'inscrit dans le psychisme des parents qui n'oublieront pas cette angoisse cataclysmique qui est venue polluer leur grossesse, mais aussi dans le psychisme de cet enfant qui, avec sa façon de vivre les choses, le fœtus, il compte. Il compte les coups, il perçoit, il mémorise, il compte les coups. Il comptabilise qu'il s'est passé là quelque chose qui s'est inscrit. Et je crois que c'est ce qu'on va retrouver parfois dans les consultations de psychanalystes. soit avec les tout-petits, soit avec les un petit peu plus grands, hein, qui arrivent avec des symptômes, et puis ils se mettent à dessiner, ils se mettent à parler, ils se mettent à jouer. Et quand on a l'oreille assez fine, ou bien que les choses ne se présentent pas trop difficilement, ben on arrive à comprendre qu'ils demandent des explications. Qu'après la naissance, il faut leur dire ce qu'ils ont senti, leur dire ce qui s'est passé, qu'on mette des mots sur pourquoi ils n'ont plus été portés de la même manière, pourquoi quelque chose a fait effraction, qu'il y a eu traumatisme. Si on met ces mots, je crois que la famille arrive à réparer, à raccrocher les wagons, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour les équipes, elles, dès lors que les examens ont certifié que le fœtus est techniquement correct, tout va bien. Ce qui se passe entre sa mère et lui est d'un autre ordre et ils ne veulent pas trop le savoir. Pourtant, il est essentiel pour les principaux intéressés, le couple et le bébé, cet épisode du diagnostic prénatal soit intégré dans l'histoire familiale. Il faut raccrocher ces wagons d'une gestation mise en suspens. Le lien, parfois gravement endommagé entre le fœtus et sa mère, doit se restaurer. En effet, comment se sortir de cette perte de confiance dans le bébé? Comment intégrer dans son histoire la culpabilité liée à la réflexion autour d'une éventuelle décision d'interruption médicale de grossesse? Ceux qui ont traversé ces épisodes dévastateurs témoignent de leur difficulté à s'en remettre. Le test du diagnostic de la trisomie 21 sur un échantillon de sang maternel sont maintenant disponibles. Mais ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie et ils valent 800 euros. Je vous laisse réfléchir à ça. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pourtant, ils permettent d'éviter, par la rapidité et la fiabilité du résultat, d'éviter toutes ces conséquences regrettables. Les mystères des effets du psychisme de la mère sur celui du bébé qu'elle porte restent entiers, malgré l'éclairage des nouvelles connaissances sur la sensibilité et la sensorialité du fœtus et du nouveau-né. Autrefois, et encore dans certaines cultures, on avait intuitivement pour principe de ménager les futures mères en cas de mauvaises nouvelles. Plus généralement, on évitait de les contrarier. Si le praticien suspectait un problème mais ne pouvait rien faire, il prenait le parti de ne rien dire pour préserver la relation mère-enfant, laisser la mère vivre sa grossesse tranquille et le fœtus par la même occasion. Aujourd'hui, en vertu des découvertes en la matière, les femmes sont sommées de protéger leur fœtus, non plus seulement avec leur ventre, mais aussi avec leur tête. Or, avant comme après la naissance, même si le bébé le ressent à un moment donné, le stress maternel n'a pas pour autant un effet systématiquement dévastateur. Un mécanisme de protection peut vraisemblablement se mettre en place. Et puis, chaque fœtus est différent. Aucun ne va négocier les émotions passées et présentes de la même manière. Un bébé ne naîtra jamais dans un univers aseptisé de tout sentiment et d'émotion. Il en va de même in utero. C'est en quelque sorte une répétition de sa future vie, faite de calme et d'agitation, de rire et de pleurs. C'est les prémices des castrations des psychanalystes et de l'avènement du symbolique. Il serait bon d'en tenir compte et de cesser de brandir l'hypothèse du stress maternel comme un épouvantail, ce qui a avant tout pour effet que de l'aggraver. Le petit stress est structurant, tandis que le gros stress ou le stress répété, ils sont traumatisants. Il en existe toute une variété, allant de ceux liés à la médicalisation de l'obstétrique, de la grossesse, de la naissance, en passant par les avortements, les IMG, etc. Le diagnostic anténatal, toujours plus performant, permet certes d'appréhender un accueil adapté à un bébé malade ou de décider l'interruption de la grossesse, mais l'angoisse, la culpabilité en sont le prix à payer pour les familles. Grâce au discours des premiers psychanalystes et aux travaux des néonatologistes, on sait que la naissance n'est qu'une étape, un déménagement en quelque sorte écologique, comme disent certains, mais aussi hautement signifiant, qui inscrit le petit humain dans la société. N'oublions pas que le fœtus de 9 mois nouveau-né font bel et bien une seule et même personne que la naissance permet de nommer. Le fameux traumatisme de la naissance des premiers psychanalystes est en fait relatif. Selon certains chercheurs, le fœtus traverse les étapes de l'accouchement dans une phase de sommeil physiologique, provoquant une sorte d'anesthésie. Mais ceci, sous réserve toutefois, que celui-ci se déroule sans stimulation artificielle des contractions, ni rupture précoce de la poche des os, ce qui est toujours le cas quand l'accouchement se déroule sous péridurale. La modification de son environnement visuel, sonore et olfactif représente une rupture d'avec sa vie fœtale. Les précautions prises pour favoriser une naissance sans violence, depuis Frédéric Le Boyer dans les années 70, tendent à adoucir la transition entre sa vie pré- et post-natale, contribuant à lui donner un sentiment de sécurité et de confiance en maintenant la continuité de ses repères anténataux. J'appelle repères anténataux l'odeur de sa mère, l'odeur de son lait, la chaleur de son corps, les vibrations de sa voix, les vibrations de la voix du père ou des frères et sœurs s'ils ont parlé près du ventre pendant la grossesse, les bruits du cœur de la mère et du corps maternel, la langue maternelle et toutes ses inflexions. Et j'en passe. La température du corps maternel, bien sûr. Tous ces éléments, ce sont des choses qu'il a mémorisées, qu'il rassure, qui sont des éléments identitaires. Identitaires au sens où c'est de lui dont il s'agit. Car il était à l'intérieur. Il ne faisait pas la différence entre lui et l'autre. C'est quelque chose qui va se produire maintenant sous l'effet de la parole, une fois qu'il sera sorti du ventre de sa mère. Et cette continuité entre les repères anténataux et la vie postnatale, ce lien qui existe entre les deux, c'est ce qui va fonder les bases du narcissisme de l'enfant, en quelque sorte sa confiance en lui. C'est parce qu'il se reconnaît lui-même, en même temps qu'il est reconnu par la société, qu'il va pouvoir y trouver sa place en confiance. On pourrait encore améliorer l'accueil du fœtus et du nouveau-né en tenant compte des découvertes sur la sensorialité. Posé sur le ventre de sa mère, sitôt la naissance, l'enfant crapaille tout seul vers le sein, guidé par sa sensorialité, en particulier par son odorat. C'est très mammifère. À condition de lui en laisser le temps, on peut le voir, au bout d'une demi-heure environ, trouver spontanément le mamelon et téter. Certains proposent de le laisser tout compte sa mère environ une heure avant toute intervention de périculture ou de pédiatrie nécessitant une séparation, même très provisoire. Pour le nouveau-né, aussi, la communication immédiate est essentielle. Si la mère n'est pas prête à lui donner la réplique, c'est au personnel de le faire. Il est alors plus urgent de parler au tout-petit qui va bien que de lui passer un tuyau dans le nez ou de lui mettre des gouttes dans les yeux. Après avoir décidé de naître, l'enfant doit aussi décider de vivre parmi ses semblables. Et pour cela, il doit être accueilli par eux. À la différence des mammifères, enfin des autres mammifères, il doit l'être également dans l'ordre du langage auquel il est soumis, dans lequel il est déjà inscrit. Parler à un bébé, c'est le lui signifier. Le reconnaître comme faisant partie de la société des hommes, c'est mammifère parlant. Lorsque les circonstances sont difficiles, en cas de prématurité par exemple, les mères comme les enfants, des années après, en gardent consciemment pour les parents, inconsciemment pour l'enfant, un souvenir vivace qui n'est pas sans effet sur leur relation. Rajoutons enfin qu'il me paraît primordial également d'accorder une crédibilité et une écoute plus importante aux pédiatres et aux néonatologistes militants pour une meilleure prise en charge de la douleur du bébé et du fœtus. Un petit plus comme ça que je vous mets au passage, qui n'est pas sans intérêt. Donc je vais faire un petit peu comme ça un survol des différentes problématiques sans aller au fond de tout, de manière à ouvrir sur l'autre partie de la soirée où on est censé discuter. Donc prenez au passage ce qui vous intéresse et que vous trouvez que je n'ai pas suffisamment approfondi ou pour lesquels vous souhaitez ajouter quelque chose et nous y reviendrons bien sûr. Je vais vous parler du postpartum, un sujet qui me tient très à cœur, le blues. 3 jours, 4 ou 5 jours, c'est très court pour faire face à la montée laiteuse, aux aléas de la mise au sein et de l'allaitement, à la cicatrisation de l'épisiotomie éventuelle, au relevage d'une césarienne, une intervention chirurgicale lourde, aux suites très douloureuses, beaucoup trop banalisées sous prétexte qu'il s'agit d'une naissance. C'est également, nous l'avons vu, après le 3e jour que survient l'après-coup de la naissance. La mère réalise que l'enfant est bien là, mais sa présence doit encore s'inscrire matériellement et socialement. C'est ce qu'on appelle le baby blues. l'heure à laquelle vont s'ouvrir toutes les portes des placards qui contiennent les cadavres cachés dans l'inconscient, qui peuvent malmener la mère sans qu'elle comprenne bien ce qui lui arrive d'ailleurs. Ces fantômes vont surprendre une femme entièrement livrée à elle-même, partagée entre un bébé déconcertant et un compagnon déconcerté, tout interlocuteur. En se substituant à l'entourage familial ensuite de couches, la médecine n'a pas pris conscience du fait que la meilleure efficacité médicale ne parvient pas à remplacer au niveau psychologique les rituels familiaux qui entouraient autrefois la naissance. Des rituels qui permettaient d'en canaliser la violence, d'en maîtriser les débordements, d'en contrôler l'inscription symbolique inconsciente au sein des remaniements de la filiation. Au nom des économies de santé, la médecine renvoie froidement les femmes dans leur foyer au plus mauvais moment. Dans un état de fragilité extrême, elles affrontent le plus souvent, moins d'une semaine après leur accouchement, un désert de soins, d'assistance et de conseils. Après avoir eu un surdosage de soins, d'assistance et de conseils, surdosage qui a eu tendance à les infantiliser, à les rendre dépendantes du monde médical. Les grossesses sont tellement surveillées à la loupe, et on leur explique tout tellement ce qui se passe, et surtout ce qui pourrait se passer, que d'un seul coup, quand l'enfant est là, un jour, deux jours, peut-être trois jours, on les fout dehors, si tout s'est bien passé, et plus personne, plus rien. Alors, bien sûr, il y a les sages-femmes qui peuvent répondre, venir, il y a les PMI, il y a les écoutes téléphoniques, mais globalement, c'est quand même avec un bébé et enfermé seul chez elle, dans un état psychologique moyen, que les femmes se retrouvent, et non plus comme autrefois, au milieu des grands-mères, des tantes, de toute la communauté du village, de la famille qui était là pour aider, pour soutenir, pour que lorsqu'un bébé pleure, y a un relais. Quand on n'en peut plus, il y a une autre paire de bras qui va essayer de le calmer. On va pouvoir se reposer un peu, faire une petite sieste, quand on n'a pas dormi de la nuit, des choses comme ça. C'est dur, hein, cette solitude du postpartum. C'est une vraie maltraitance des femmes, je trouve. Je crie ça depuis une trentaine d'années. Et il s'est passé peu de choses depuis. Effectivement, pendant postpartum, il y a cette histoire d'allaitement. Alors là, il a l'air de se passer des choses du côté de l'allaitement. Après une longue période de purgatoire, l'allaitement maternel est à nouveau vivement préconisé. Il redevient, entre guillemets, la meilleure façon de nourrir son bébé, même si, nous rassurent pédiatres et psychologues, il n'est certes pas la condition nécessaire à un maternage réussi. Mais quand même, ajoutait-il, au moins explicitement. Si l'allaitement, pour une raison ou pour une autre, est impossible, ou si une mère ne le souhaite pas, alors c'est la panique. Pourtant, dans un jardin public, qui peut distinguer les enfants qui ont été nourris au sein et les autres ? Les premiers ne sont a priori ni mieux portants, ni plus éveillés, quoi qu'on en dise, ni plus épargnés par les troubles de l'oralité qui se répercutent si vivement à l'âge adulte, et ils n'ont pas plus de risques les uns que les autres de devenir boulimiques, fumeurs invétérés ou toxicomanes. En revanche, les mères peuvent être durablement culpabilisées de n'avoir pas pu ou pas voulu allaiter. Quel en sera l'impact sur l'enfant ? C'est pourtant dans cet environnement affectif que le narcissisme d'un enfant va trouver ses fondations. Le cadre de ses premiers moments influe sur sa santé physique et psychique future. Les troubles de la petite enfance qui, fixés, donneront les troubles plus graves de l'enfance et de l'adolescence, peuvent se manifester dès la grossesse, dès la naissance ou dans les premiers mois de la vie. Quand ils sont somatiques, ce type de trouble peut entraîner des consultations médicales à répétition, tant qu'ils n'ont pas été compris dans leur dimension symbolique. Les plus fréquents sont les troubles du sommeil, les troubles cutanés, les troubles alimentaires et digestifs, les troubles pulmonaires et ORL. En termes individuels, leur traitement précoce et souvent rapide entraîne un mieux-être du groupe familial immédiatement perceptible. En termes de santé publique, la réduction du nombre de consultations médicales doit pouvoir être objectivement mesurée. Bien sûr, toute infection ORL ou digestive ne nécessite pas une compréhension symbolique de son déclenchement, mais la répétition de ces infections, dans un délai très court, qui aboutit à des traitements antibiotiques en série, oui. On rencontre également des enfants à qui l'on donne quotidiennement des hypnotiques pour que les parents puissent dormir. Hein, les sirops machins, les sirops trucs, soi-disant homéopathiques. Or, la dépendance à des médicaments dans la petite enfance a, on le sait, un impact non négligeable sur la prise de drogue à l'adolescence. En ce qui concerne les enfants d'âge scolaire, lorsque les troubles apparaissent, scolaires ou relationnels, ils sont déjà pour la plupart fixés, nécessitant des prises en charge parfois assez lourdes pour les parents. Quant aux adolescents, leurs difficultés supposent des actions à la mesure de leur diversité. Ces difficultés ont une histoire et n'apparaissent nullement comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il est bien, comme on le fait actuellement, de se préoccuper de l'adolescence, mais il faudrait se préoccuper de prévention bien avant que les enfants aient atteint cette période. La mode qui nous arrive de l'Ouest, je pointe les États-Unis, le Canada, de la pratique du maternage extensif, si elle est fondée sur de saines intentions, ne tient pas bien compte des conditions de vie des familles. L'allaitement prolongé très tard, le portage en écharpe, le co-sleeping sont souvent des leurres qui peuvent masquer un positionnement conjugal et Vincent le père, avec souvent sa propre complaisance, pour faire place à une fusion mère-bébé, dont les conséquences ne seront pas toujours des plus souhaitables, sans parler du fait que le travail des femmes rend la pratique de ce type de maternage souvent difficile, ce qui culpabilise celles qui auraient souhaité y avoir recours. Est-ce bien adapté au fonctionnement de notre société ? On ne peut pas importer des pratiques en cours dans d'autres pays sans questionner leur adaptabilité. S'en inspirer est une chose, les appliquer à la lettre en est une autre. Donc, vous comprendrez, j'ai dit que les intentions n'étaient pas mauvaises. Encore, faut-il les repenser et les adapter à notre mode de vie, à notre fonctionnement familial et à ce qui attend les enfants. Parce qu'un bébé au sein à 5 ans et un bébé qui a été porté en écharpe, y compris lorsqu'il savait déjà marcher, ça va bien dans certains pays, mais pas dans tous. Les bébés qu'on m'amène pour les sortir du lit conjugal, parce qu'on les y a mis, mais qu'on n'a jamais réussi à les sortir après, ce sont des bataillons entiers. Enfin, au niveau du couple, les partenaires sont dans des positions impossibles. Quand une femme, seule toute la journée avec son bébé, n'a d'autre interlocuteur que le père de cet enfant le soir, la demande qu'elle lui adresse est irrecevable pour lui. Comme dans toutes les sociétés humaines, elle attend quelque chose de la communauté des femmes. Mère, sœur, amie, de vraies voisines, devraient être là pour aider une femme à entrer en maternité. Aujourd'hui, elles sont loin, occupées, non disponibles. La femme ne peut plus demander cela qu'à son homme, qui, faute d'une préparation adaptée et de modèles identificatoires en amont, se trouve souvent mal à l'aise dans ce rôle. N'ayant souvent jamais tenu un bébé dans les bras avant le sien, l'entrée en paternité est pour lui aussi un plongeon difficile. D'où l'installation de malentendus tenaces, chacun des deux demandant à l'autre l'impossible et lui reprochant de ne pas y répondre. Rien ne va plus. Ces embûches mises par la société lors de la naissance de la famille ne sont probablement pas étrangères à la multiplication des séparations très précoces des couples, ce qu'on appelle le baby clash. Ces difficultés surviennent en effet sur fond d'une évolution sociologique profonde. La génération qui a aujourd'hui des bébés est née après la pilule dans des fratries réduites. Autrefois, chacun, chacune avait grandi, sinon dans des familles nombreuses, du moins dans un environnement où il avait côtoyé des enfants de tous âges, nourrissons au sein, enfants petits, moyens, grands, qu'ils soient frères et sœurs, cousins ou voisins. Une empreinte au sens éthologique du terme de ce qu'est s'occuper d'un bébé, d'un enfant, se faisait. Les modèles étaient là, inscrits, et le jour où c'était votre tour, il n'y avait pas à inventer. Aujourd'hui, nombre de jeunes parents n'ont jamais touché de bébé avant le leur. Ils n'en ont guère que des images, et ce bébé-là est loin d'être virtuel. Le choc du réel est redoutable. Solitude, choc du réel, identification impossible, incommunicabilité dans le couple, il y a de quoi déprimer pour les mères, déraper pour les pères. On se penche aujourd'hui sur la dépression maternelle. Les professionnels y consacrent congrès après congrès. Ça n'a rien d'étonnant. Tout est mis en place pour que les dépressions se multiplient. Car jamais une société humaine n'a été aussi dure avec les jeunes mères, ne les a laissées aussi seules. Ce qui reste le plus difficile à évaluer reste les conséquences à court et à long terme sur le nourrisson. Il existe de nombreuses variétés de stérilité et de multiples moyens d'y remédier. Don de gamètes, recours à une mère de substitution, accueil d'embryons, adoption. Chacune de ces options permet à des individus de devenir parents. Mais elles ouvrent toutes sur un questionnement autour de la position des petits humains, assujettis à la puissance du désir d'individus tutélaires, qui font appel à des manipulations modifiant les données de la reproduction traditionnelle. Le recours à des tiers étrangers leur permet d'accéder à la maternité et à la paternité en dépit de leur handicap. Mais l'intérêt de l'enfant est rarement pris en compte. Certaines techniques de PMA se font avec la participation d'une tierce personne, un donneur ou une donneuse qui fournit des gamètes, spermatozoïdes ou ovocytes lorsque les parents ne le peuvent pas. Ce sont les géniteurs. C'est pour assortir au mieux donneur de gamètes et parents qu'a été conçue une procédure d'appariement de leur phénotype respectif. On entend par phénotype le groupe sanguin, la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, etc. En d'autres termes, quand vous y, si par exemple vous avez un problème de fertilité et que vous allez demander un don de sperme, d'embryon, d'ovocyte, eh bien on va chercher un donneur ou une donneuse qui vous ressemble ou à qui vous ressemblez. Globalement, c'est ça l'idée. Si l'enfant se trouve bien, alors en fait, en manipulant les gamètes de cette façon, ce n'est pas l'enfant qui ressemble aux parents, comme on dit souvent à la maternité. Ce qui se passe, c'est que par exemple, l'enfant naît par don d'ovocyte, à la maternité, on a la visite de la famille, elle dit « Oh, il te ressemble !» Et alors là, la mère est gênée. Gênée parce que c'est pas ses gènes. Et en fait, il ne ressemble pas. Il ressemble au donneur. Mais comme la mère, elle ressemble au donneur, enfin à la donneuse en l'occurrence, vous voyez le petit subterfuge. Alors le subterfuge, il a été mis en place d'une façon assez intéressante, puisque pour créer les premiers échos, les premières banques de sperme, vous rendez-vous, c'était complètement diabolisé à l'époque, c'est les années 73. Premier échos à Cochin, c'était totalement diabolisé. Que jouer avec le diable, hein, c'est de faire des trucs pareils. Donc, l'assistance publique de Paris avait refusé d'accueillir ces nouvelles pratiques au sein des hôpitaux qui, je vous rappelle, venaient tous étaient d'origine religieuse, malgré tout, même s'ils ne l'étaient plus pour la majorité d'entre eux à ce moment-là. Et donc, ce qu'ils ont trouvé pour faire ça, c'est de faire une association qui a été hébergée au sein de l'hôpital Cochin, mais ça ne faisait pas partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et en créant ce SECOS, on leur a demandé de brouiller suffisamment les cartes pour respecter la moralité. La moralité étant que faire des enfants comme ça, c'est pas sûr que ce soit une chose très morale. Donc ils ont mis en place ce système de « on va faire ressembler comme ça les enfants, eh bien on verra que du feu hein ». Ça sera ni vu ni connu. Et voilà d'où ça vient. Mais les mentalités évoluent vraiment très lentement, puisque ça continue très soigneusement à être pratiqué dans tous les SECOS. Ainsi, toutes sortes de données identifiantes et non identifiantes concernant les donneurs ou les parents de naissance en cas d'accouchement sous X sont conservées sous le sceau du secret obligatoire par des institutions. Les SECOS pour les gamètes et les embryons, le CNAOP pour les accouchements sous X. Alors, l'accouchement sous X, c'est l'accouchement anonyme au secret. Hein. Et depuis, je crois que c'est dans 2002, ouais. Depuis la dernière réforme, a été créée des institutions CNAOP, Conseil National pour l'accès aux origines personnelles, qui sont des institutions qui gardent, lorsque la mère l'a accepté, on l'invite et puis elle accepte ou elle refuse, qui gardent les identités des mères de naissance et les histoires. Hein. Si un jour celui qui est né sous X veut avoir accès à son origine, avoir en l'occurrence qui est sa mère, voire son père éventuellement, si c'est dedans, et que celle-ci les a laissés, il peut le demander. À ce moment-là, la rencontre va être médiatisée. On va demander à la mère si elle est d'accord pour rencontrer son enfant qui souhaite la rencontrer, si on la retrouve. Hein. Et si elle n'est pas d'accord, on dit à l'enfant, non, on l'a retrouvée, mais elle persiste et signe. Elle ne veut pas de lien avec vous. Soit elle est d'accord et la rencontre est médiatisée de manière à ce que ce ne soit pas trop brutal, parce que c'est quelque chose quand même si c'est fantasmé, idéalisé, souhaité, c'est quand même très intense et ils ont besoin d'être soutenus pour cela. En filigrane d'un étranger dans l'enfant que les parents se doivent d'adopter se cache la question de la transgression de l'interdit de l'inceste, source d'angoisse plus ou moins consciente mais toujours présente chez les parents comme chez les enfants. Car si le donneur, au sens large, donneur de gamètes, d'embryons, d'enfants, prêteuse d'utérus dans le cas des mères porteuses, reste un étranger pour les parents, il ne peut être reconnu comme tel par l'enfant qui se trouve exposé dans le réel comme dans l'imaginaire au risque de la transgression de l'interdit de l'inceste puisque les géniteurs restent anonymes. L'inconnu, même si son existence est tenue secrète, peut s'incarner en un fantasme persécutif, générateur de symptômes variés, liés à la possibilité de transgresser l'interdit de l'inceste, loi structurant notre société sans le savoir. Le secret absolu de la conception par PMA existe dans certaines familles, mais le plus souvent, d'autres membres connaissent les modalités de la conception. La révélation du recours au don préoccupe les parents. Quand le dire? Comment le dire? Pourquoi le dire puisqu'on ne connaîtra jamais l'origine? Certains ne sont pas contre le fait de parler à leur enfant, mais préféreraient attendre que les questions viennent de l'enfant lui-même. Or, les enfants savent bien qu'il y a des questions à ne pas poser. Certaines familles constituent du secret. C'est souvent pour mieux en cacher un autre. Pour les enfants, séparés dès leur naissance, la naissance représente une coupure radicale d'avec ce qu'ils connaissent. Leurs perceptions postnatales sont en totale disjonction des perceptions mémorisées dans le ventre de leur mère. Sa voix, son odeur, les bruits de son corps, éventuellement la voix du père s'il a parlé près du ventre lorsqu'il était présent pendant la grossesse, l'ambiance familiale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même le goût de la cuisine qui imprègne la cuisine familiale qui imprègne le liquide amniotique, va être retrouvé dans le lait maternel. Tout ce qui permet à un nouveau-né de se repérer dans les premiers moments de sa vie et qui fonde les bases de son narcissisme primordial, c'est important. Simplement, la seule chose qui fasse lien entre l'avant et l'après de la naissance pour ces enfants qui ont perdu tout ça, ce sont les paroles qui concernent son histoire qui donneront sens à ce qui lui est donné à vivre. Les douleurs périnatales engrammées dans l'inconscient ne seront pas toujours décodables lorsqu'elles s'exprimeront sous forme de dépression, d'angoisse, de somatisation diverse, de sentiments d'insécurité ou d'envie suicidaire. C'est souvent à l'adolescence qu'elle se trouverait actualisée, car il s'agit là d'une nouvelle naissance, la venue au monde adulte. On peut s'interroger, au travers de certains troubles présentés par les adolescents, si ce n'est pas d'une autre rupture dont il est question pour eux à leur insu. Toute séparation renvoyant au deuil et aux séparations antérieures mal cicatrisées, c'est tout au long de la vie que la fragilité peut se faire entendre, car entre la vie et la mort, nombreuses sont les occasions de rencontrer leurs métaphores. On sait maintenant que le fœtus perçoit, mémorise, catégorise et apprend. Toutes les perceptions emmagasinées sous forme sensorielle sont réorganisées après la naissance sous l'influence de la parole et du développement cognitif. L'amnésie infantile est un processus physiologique qui survient entre l'âge de 3 et 5 ans. Elle consiste à refouler naturellement dans l'inconscient les souvenirs anténataux et ceux du début de la vie aérienne pour les nécessités du développement. Elle concerne chaque individu. Ne pas tenir compte de l'existence de ces souvenirs oubliés est une forme d'exploitation de l'immaturité phylogénétique de l'humain à sa naissance. C'est aussi une forme de négationnisme. On demande à ces enfants de penser qu'ils sont quelqu'un d'autre. Un enfant conçu biologiquement par ses parents, dans le cas d'accouchement sous X. Malheureusement, cette escroquerie est encore trop souvent utilisée par les meilleures intentions conscientes, par des parents en mal de reproduction naturelle. Les parents parfaits n'existent pas, et les parents infertiles n'échappent pas à la règle. Ils préfèrent parfois assujettir l'enfant aux exigences de leur souffrance personnelle et lui demandent de se construire un personnage à l'image de leurs fantasmes parentaux, en lui déniant tout passé. Or, la psychanalyse nous a montré qu'on négocie mieux une vérité sur soi, même cruelle, qu'un mensonge. Et ceci vaut également pour les nourrissons. Demander à un enfant de se structurer sur du non-dit, c'est lui demander de nier une partie de lui-même. Car il sait bien ce qu'il vit et ce qu'il a vécu. Et si sa conscience ne le lui rappelle pas explicitement, l'inconscient pourra venir, par des symptômes inexplicables, en témoigner tout au long de son existence. Lorsque la transmission langagière n'est pas faite, il doit être bien difficile au cerveau du nourrisson de symboliser les données nécessaires au développement harmonieux de son activité cognitive, parfois alors confronté à un interdit de savoir. Je reviens à mon histoire de PMA. Je vais parler de GPA et d'accouchement sous S. L'ordonnance de FIV, qui précède une GPA, équivaut à une prescription d'abandon. Et les médecins se retrouvent dans une position paradoxale au regard d'un abandon sur ordonnance. Puisque la mère qui va porter l'enfant va s'en séparer à la naissance. C'est ce que j'appelle l'abandon sur ordonnance. Quand une femme abandonne son enfant à la naissance, c'est le résultat d'un drame humain. Quand un médecin prescrit une FIV pour une femme qui va abandonner son enfant à la naissance, la problématique, si elle a beaucoup de points communs, est quand même différente. Les médecins savent depuis longtemps les effets délétères de la séparation mère-bébé. Ils ont inventé les unités kangourous pour maintenir ensemble les mères et leurs nourrissons hospitalisés, le pot à pot, l'hospitalisation conjointe mère-bébé. Ils mettent le nouveau-né sur le ventre de sa mère dès la naissance, sur sa poitrine, en cas de césarienne, pour favoriser la continuité de la relation. Les pédiatres et les accoucheurs déliraient-ils quand ils se donnent tant de mal pour préserver ce lien de corps et d'âme dont on connaît l'importance pour l'avenir de l'enfant? Ils ont vu combien ces pratiques amélioraient le pronostic des survies des prématurés, la longueur des hospitalisations, le succès des allaitements. Comment peuvent-ils parallèlement prescrire l'abandon? Un parent génétique à la naissance, qu'il le veuille ou non, du point de vue du bébé, est un étranger. Que le parent ait donné ou non ses gamètes, ce n'est pas lui que le bébé reconnaîtra et qu'il recherche pour sa sécurité et sa survie, mais celle qui l'a portée. On voit comment, du point de vue de l'enfant, la pratique de la GPA reste intimement liée à celle de l'accouchement sous X. À cette différence près que dans l'adoption, la société tente de trouver une solution à des drames humains existants, alors que dans la GPA, elle instrumentalise les femmes et objective les enfants, assujettis dès lors aux caprices des adultes. L'homoparenté féminine nous confronte souvent à la problématique posée par l'anonymat des donneurs. Il est dit aux enfants qu'ils n'ont pas de père, puisque dès qu'ils vont à la crèche, ils demandent. Et moi ? Or, tous les enfants ont un père. Reste à le leur expliquer, et à leur expliquer la complexité due à la multiplication des aspects paternels entre le géniteur, le papa, la copine de la mère, qui postule aussi au titre de maman. Comment le leur dire et quand le leur dire pour qu'ils ne s'y perdent pas et ne plongent pas dans le fantasme perturbant qu'un enfant pourrait être issu de deux parents du même sexe? Les homosexuels masculins, par la légalisation du mariage, ont acquis le droit de devenir parents ensemble en adoptant. Auparavant, seul un des deux pouvait adopter. Certains, cependant, partent à l'étranger pour avoir recours à une GPA interdite sur notre territoire et demandent ensuite l'inscription à l'état civil français pour l'enfant. La France, qui s'y refusait, a été condamnée par la Cour européenne de justice. Le sujet fait débat actuellement. Serait-ce un si grand préjudice que les enfants conçus ainsi et qui sont comme tous les enfants sous tutelle parentale conservent jusqu'à leur majorité leur nationalité de naissance et ne choisissent la nationalité française de leurs parents qui ont transgressé la loi de leur pays qu'à ce moment-là. Vous m'entendez? Là où ils sont nés, ils ont la nationalité du pays. Ils sont américains, ils sont ukrainiens, ils sont indiens, ils sont thaïs. Ils peuvent rester avec cette nationalité et bénéficier de tout ce que les immigrés bénéficient pour leurs enfants ici, en étant étrangers. Certes, mais s'ils sont étrangers, ça a du sens. C'est que leurs parents ont choisi de transgresser la loi française pour les concevoir. Et ça implique aussi qu'il y a dans le pays étranger une femme qui les a portés et qui l'a abandonné à la naissance. Je pense qu'un enfant, à la majorité, est considéré comme responsable. Si à ce moment-là, il considère qu'il est français, il peut choisir la nationalité française. Je vous ai fait part là de ma position, qui est assez mal vue, je dois dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que, sous prétexte que ces enfants-là sont en France et qu'ils doivent pouvoir s'inscrire dans la lignée de leurs parents et doivent recevoir la nationalité française, même s'ils ont été... comme si, eux, ils payaient. Mais bon, ils ne payent pas grand-chose, hein. Si on leur dit qu'ils pourront être français, oui, mais quand ils seront majeurs. C'est ma position. Ils peuvent bénéficier d'aller à l'école, ils peuvent bénéficier de tout ce qu'offre la France, même si c'est un peu plus compliqué administrativement. Mais au moins, ils grandiraient dans la vérité de ce qui s'est passé dans leur histoire. Pour terminer, je vais évoquer le cas de Thomas Beatty. Vous voyez qui c'est ? Je vous le rappelle. C'est un transsexuel américain. Celui-là, de femme, il est devenu homme. Il a subi une double mastectomie, un traitement hormonal, mais il a conservé son appareil génital reproducteur féminin. C'est ainsi qu'il a pu épouser Nancy, une femme qui s'est révélée stérile. Il lui a fait 3 enfants. Il a été un homme 3 fois enceint. Actuellement, on lui refuse le divorce de Nancy qu'il réclame parce qu'il a une nouvelle petite amie. Ma collègue psychanalyste Catherine Vanier dit « Ah, ces petits-là, je ne veux pas qu'on me les amène. Il faudrait que je leur dise que papa, c'est maman, mais que maman, c'est pas papa, et qu'elle n'est plus sa femme, et qu'il y en a une autre qui n'est pas maman, etc. Je m'en sortirai jamais. » Comment les enfants vont-ils faire avec toutes ces évolutions ? Rappelons-nous qu'il y a encore une ou deux générations. Celui qui avait des parents divorcés était pointé à l'école. On parlait de lui à voix basse. Le divorce était encore tabou. Actuellement, les choses sont presque inversées, et ce sont ceux dont les parents n'ont pas divorcé qui deviennent minoritaires. Les pratiques et les mentalités évoluent, se banalisent, parfois au mépris des souffrances qu'elles peuvent engendrer pour les enfants, des conséquences qu'elles peuvent avoir sur les adultes de demain. Des juges ordonnent la garde alternée pour des bébés, parfois encore allaités au sein. Soyons prudents et sans a priori, restons éveillés. N'agissons pas sans penser, sans penser aux enfants. La France est le seul pays qui s'est doté d'institutions pour penser ces évolutions, comité d'éthique, agence de biomédecine, académie de médecine, etc. Laissons-leur le temps de faire ce travail qui sera toujours indispensable. Je vous remercie. Bon, j'ai ouvert beaucoup de portes. Maintenant, c'est à vous de jouer.